Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Nous vous présentions la semaine dernière le numéro 32 de la collection Éthiopique, cette série d'une trentaine de disques consacrés aux artistes de musique éthiopienne et érythréenne des années 60 à 2000. Poursuivons avec le numéro 31 consacré à l'artiste Mouloukène Mélessé, toujours aux côtés de Max de la radio RCV à Lille et de Francis Falsetto, directeur artistique de la collection. Goodbye Karel sort son deuxième album, Knucklebreaker Max. Et si l'artiste ne délaisse pas totalement la musique folk, elle s'éprend de productions plus modernes. Interview à retrouver en deuxième partie d'émission. Après I Care About You, sorti en 2024, Ever Gonna Heal prend la suite pour le quatuor de Pretty Insight, porté par Alexis de 16. Un quatrième disque qui maîtrise parfaitement les influences 90s qu'on leur connaît, mais un éventail plus large est à découvrir tout au long de ces 16 titres. Écoute et interview par Bingo de Radio Méga.
Le 12 décembre dernier, juste à temps pour finir dans la hotte du Père Noël, le groupe bordelais Pretty Inside a sorti Ever Gonna Heal, son troisième album, sur une flopée de labels underground de qualité, dont Flippin' Freaks Records, All In Banana Records et les Disques du Paradis. Dirigé par Alexis de 16, Pretty Inside reste fidèle à ses racines, le rock indépendant slacker des années 90 et la power pop. Toutefois, on notera une belle ouverture à d'autres influences, telles la folk 60s ou des sons synthétiques discrets mais singuliers.
Je suis Bingo de Radio Méga, situé à Valence dans la Drôme.
Partons à la rencontre d'Alexis de 16 et de son fabuleux projet musical Pretty Inside. Scratch the screen and make it.
Sharing all the love.
Bonjour Alexis. Au vu de ce que l'on a pu glaner de ci de là, on te sait fier de ce nouvel et troisième album de Pretty Inside. Comment pourrais-tu nous le présenter en quelques mots ?
J'ai commencé à travailler sur le disque en 2020, au même moment où j'ai enregistré le tout premier album de Pretty Inside. Donc l'écriture des morceaux, elle a presque 5 ans. Et moi, ça fait 10 ans en fait que je fais des concerts, donc c'est la moitié de ma vie de musicien qui est concentrée sur ce disque. La sortie de ce disque-là, elle a une saveur bien plus spéciale que celle de mes précédents disques. Et en quelques mots, le pendant Covid, ça a été difficile pour plein de gens. Et disons que les morceaux parlent un peu de ça, de l'entourage qui rencontre des difficultés sur le plan psychique, et sur le plan mental. Et pareil pour l'enregistrement, ça a été très difficile avec un entourage très fragile sur le disque. Donc voilà, ça fait du bien qu'ils sortent parce que à la fin, ce qu'on veut, c'est faire de la musique et c'est envoyer de la lumière et c'est cool.
Pour autant, tu parles de difficultés, mais en même temps, Ever Gonna Heal, c'est un titre qui est plutôt positif et qui s'inscrit comme le précédent dans un champ lexical du soin, de l'attention.
Moi, je l'avais un peu pensé comme une question. La poésie, chacun la reçoit comme il peut. Si toi, t'es dans une phase où t'as assez peu d'espoir et que à la réponse Ever Gonna Heal, tu vas te dire bah non, je suis dans la merde et je vais jamais m'en sortir, et que tu trouves une zone de confort et de réconfort et de te sentir compris par ça, ben ça a autant de sens que l'autre versant de la, enfin qu'une autre réponse qui peut dire bah ouais, on va s'en sortir, on va guérir. Que tu le prennes du côté sombre ou du côté lumineux, que tu penses que tu vas guérir ou que tu vas pas guérir, l'important c'est de trouver une zone de compréhension de soi-même et de réconfort dans la musique.
Tu l'as dit tout à l'heure, et c'est marqué dans les crédits, il est indiqué que les chansons d'Ever Gonna Heal ont été enregistrées entre 2021 et 2024, ce qui correspond à une période où sont sortis tes deux précédents disques, et certains titres seraient-ils des chutes de studio ?
Ah non, pas du tout, vraiment. Le premier album, Grow Up, il a été enregistré d'une traite, et pendant l'enregistrement de Grow Up, j'ai commencé l'écriture d'Ever Gonna Heal, et direct après la sortie de Grow Up, on a commencé Ever Gonna Heal, et l'enregistrement s'est vraiment éternisé, parce que non seulement on a été encore plus gourmand que sur Grow Up au niveau des arrangements et tout, on a dû mettre le disque plusieurs fois en pause pour des raisons personnelles, et en fait tout cette espèce de status quo incessant et de tunnel sans fin ont fait que je m'étais dit vas-y là, enfin moi il faut que j'enregistre un autre truc, il faut que je continue à jouer avec mes potes, il faut qu'on continue à tourner. Donc c'est à ce moment-là que j'ai écrit enregistré I Care About You, c'était un peu une parenthèse dans l'enregistrement de Ever Gonna Heal en fait. Vraiment les albums sont pas connectés quoi.
Dans certaines familles, il arrive malheureusement qu'un enfant soit moins aimé que les autres. Alors chez Pretty Inside, c'est un album qui s'appelle I Care About You. Pourtant, un très bon disque. Que s'est-il passé de si déplaisant avec ce deuxième album ?
I Care About You, je l'ai écrit très rapidement. Je l'ai écrit en une semaine et je l'ai enregistré en une semaine. Et j'avais envie de faire un disque un peu urgent. Et surtout, contrairement à Grow Up et Ever Gonna Heal, on a passé beaucoup de temps en studio avec beaucoup d'arrangements. Il y a finalement assez peu d'empreintes live d'un groupe. I Care About You, on l'a enregistré comme un groupe des années 70. C'est-à-dire que je suis arrivé avec les musiciens et je leur ai dit voilà, j'ai 12 morceaux, on les répète, on les travaille, on les apprend, on va en studio et on les enregistre en live. Et du coup, il a peut-être quelque chose d'un peu moins soigné, c'est que c'est un disque de groupe et un disque beaucoup plus brut, et c'est pas pour autant que je l'aime moins. Disons que c'est un geste différent.
Tu viens de parler des étapes de création chez Pretty Inside. Comment ça se passe en fait ? Est-ce que c'est un fonctionnement collégial ou alors c'est un projet dictatorial ?
Ben, j'ai tendance à dire plus dictatorial, mais j'essaye de me dire que sur chaque album, il faut essayer des choses différentes parce que sinon, tu fais tout le temps le même disque. Donc le premier, Grow Up, c'était vraiment Stéphane et moi, donc Stéphane Gillet, le producteur. On l'a littéralement enregistré à deux. I Care About You, c'était beaucoup plus un disque de groupe où j'ai laissé les musiciens écrire leur partie et je voulais qu'il y ait ça, je voulais que ce soit un disque de groupe. Et Ever Gonna Heal, il devait être un peu entre les deux. Donc à la base, moi, j'ai enregistré avec Lucas la plupart des guitares batteries en prise live. Et l'idée, c'était qu'avec les autres membres du groupe, on construise autour de ça. Mais en fait, rien ne s'est passé comme prévu parce que l'enregistrement à rallonge et aussi notre gourmandise sur les arrangements et la prod ont fait que la dictature a repris ses droits.
Get upset.
À l'instar de la chanson que l'on vient d'entendre, Useless Thrill, qui m'évoque Divo chez Plastic Bertrand, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace sur Ever Gonna Heal, notamment des choix plus marqués en termes de mix. On entend des sons nouveaux, je pense par exemple à des percus mises bien en avant ou encore à des synthés. Qu'est-ce qui vous a guidé, Stéphane Gillet et toi, dans ces directions ?
Je crois qu'on avait un peu fait un pacte avant qu'on enregistre le disque de pas s'interdire de choses. Et tu vois, c'est marrant parce que je pense que t'as parlé justement des deux choses qui ont probablement posé un peu problème sur le disque. Donc les synthés très agressifs de Useless Thrill et la cloche sur BoJack's Sparkle Horseman. Et en fait, on s'est pas mal chamaillé parce que Stéphane voulait que ce soit assez radical et que ce soit assez devant dans le mix, etc. Et moi, j'étais un peu plus frileux à le faire. J'avais envie de faire un disque extrême, mais j'aurais peut-être pas osé si c'est moi qui l'avais mixé ou si je l'avais réalisé tout seul. Et le fait d'avoir une tête brûlée comme Stéphane qui s'occupe de la prod et qui parfois impose des choix, en fait, bah tu te retrouves à la fin à faire le disque que t'avais pas prévu de faire, et finalement j'en suis assez content. Les choses ont été posées et quand moi j'essayais de les changer, parfois c'était bah non, on va les garder comme ça.
Tu restes fidèle à la power pop, au rock indé des années 90. On remarque aussi des territoires musicaux que tu as peu abordés auparavant, notamment la folk, 60s. Pourquoi cette envie ? T'as écouté des choses marquantes ces derniers temps ?
Quand tu fais un disque sur 4 ans, en fait, t'es en même temps en train de digérer 4 années de musique. Moi, j'écoute en fait de la power pop, j'en écoute pratiquement pas, quoi. Enfin, j'en écoute autant que j'écoute de la folk, que j'écoute du punk hardcore, j'écoute du shoegaze, de l'indus, j'en sais rien. Peut-être que l'héritage des Beatles et de Nirvana très profond en moi fait que j'adore les couplets, refrains et les trucs super catchy, mais dans le fond, je me suis pas dit, vas-y, je vais faire de la folk, 60s, je vais faire de ci, de ça. C'est juste que je me suis nourri de pas mal de trucs sur un temps assez long, et forcément, toutes ces influences-là qui te parlent, tu les recraches d'une façon ou d'une autre. Bah, un disque comme I Care About You, par exemple, qui a été écrit, enregistré en une semaine, il va capturer qu'une semaine d'influence et qu'une semaine d'obsession musicale, alors qu'un disque qui a été fait sur 4 ans, il va en capturer 4. Et pourtant, les deux, ils représentent un seul moment.
Il y a un titre qui est particulier sur cet album, c'est le titre « Clairvoyance ». Une espèce de pièce musicale assez conséquente de 7 minutes 23 en deux actes. Il y a une première partie apaisée, puis à 3 minutes 47, 3 minutes 50, tout s'emballe. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce double titre ?
À cette époque, je côtoyais une personne qui faisait pas mal d'allers-retours en institut psychiatrique. Et le morceau parle un peu de cette dualité où il y a quand même tout un monde où tu fais ça pour te soigner, pour trouver de la paix, du réconfort avec la médicamentation, avec un peu de mise à distance avec le monde et toutes ces choses un peu stressantes. Et à la fois, tous les cauchemars que ça peut engendrer au niveau des addictions, au niveau de pas se trouver sa place, au niveau de se sentir mis à l'écart. Et ouais, Clairvoyance est inspiré par ça.
La version CD du disque comporte 4 chansons bonus. Est-ce que c'est pas frustrant de devoir laisser des titres de côté pour la version vinyle ? Je pense notamment au superbe et très Beatlesien, presque même lennonien et harmonieux Little Fleas.
Ouais, bien sûr, c'était frustrant parce que on a passé autant de temps sur ces morceaux que sur ceux qui sont terminés sur le vinyle. Après, il faut faire des choix et tous les groupes passent par là. En fait, j'aime pas les albums trop longs de base, mais ça m'embêtait de les détacher du reste de l'œuvre parce qu'ils parlent grosso modo des mêmes choses, ils ont été enregistrés à la même époque et tout. Donc, je trouve que c'était un bon compromis de les mettre en bonus track. Et disons que ça va récompenser les gens qui vont acheter le disque et qui auront le code de téléchargement, ou alors qui vont acheter le CD et qui auront les bonus track. Et moi, je suis très attaché au format physique. J'achète beaucoup de CD, j'achète des vinyles quand j'ai un peu d'argent. J'ai envie de les récompenser, les gens qui font cet effort-là. Mosquitoes come, they bite and go. They suck you out and come again. Whistling and buzzing in your tiny little ears, leave you there to feed the worms' pretty little fear. Thank you.
Depression kicks into your skin. And leaves you there in the morning. Scratching little trash buried in your sheets.
Tu es l'un des cofondateurs du label bordelais Flippin' Freaks Records. Comment arrives-tu à gérer ton activité de musicien chez Pretty Inside et celle de dirigeant de maison de disques ?
J'aime passer du temps à aider des artistes à sortir leurs disques parce que je sais à quel point c'est important. Je mets mon temps libre, je le mets vraiment volontiers au service de ça. Et puis, je me dis aussi que si on le fait pas, ben personne le fera. En fait, dans le monde indé et dans les cultures alternatives dont on essaye de se nourrir, la survie en fait de ces choses-là, elles viennent seulement de l'énergie des gens qui la composent. Moi, j'en ai de l'énergie, j'ai la chance d'avoir un peu de temps. J'ai envie que ça survive, ce beau truc de faire de la musique, et donc je le fais vraiment avec plaisir.
Tu viens de dire survie, bénévolat, temps libre. Est-ce facile de vivre de la musique actuellement en France ?
Disons qu'on a chacun nos petites astuces pour vivre ou survivre là-dedans, et c'est pas vraiment les questions qui m'intéressent le plus, à vrai dire.
Ever Gonna Heal va-t-il être soutenu par une tournée en France ou ailleurs en 2026 ?
Ouais, on va pas mal tourner cette année. Là, on va travailler avec une nouvelle boîte de booking qui s'appelle Sanguine Prod. Bah voilà, c'est cool de sortir un disque, mais c'est encore mieux de le jouer et de partager l'énergie en direct.
Alexis, il est temps pour moi de te remercier. On va se dire au revoir sur un autre extrait du nouvel album de Pretty Inside qui m'invite à te poser une ultime question. Tu l'as cité tout à l'heure, la chanson Bojack Sparkle Horseman est-elle un hommage au regretté Mark Linkous ?
C'est un hommage. J'adore Mark Linkous, il m'a beaucoup influencé.
Je te remercie et je te dis à bientôt.
À bientôt.
Those tiny holes in the sky.
vous êtes toujours à l'écoute du magazine Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock. Dig Dig Diggers. Goodbye Karel semble tout juste révélé en France, avec notamment sa participation en 2024 aux Inouïs du Printemps de Bourges. Mais l'artiste est pourtant très identifiée au Québec, où elle a construit une solide carrière au cinéma. Et si l'amour du jeu est présent, celui de la scène aussi, la preuve avec quelques dates en ce début d'année 2026, dont une au festival Biz à Nantes, Xavier de la Ferrarock y est parti à sa rencontre quelques heures avant de monter sur scène pour présenter son deuxième album Knucklebreaker Max.
Karel.
Bonjour.
En avril 2024, les radios de la Ferrarock te découvraient aux Inouïs du Printemps de Bourges où tu nous avais fait le plaisir de venir jouer quelques titres sur notre plateau. On te retrouve 2 ans plus tard à Nantes au Biz Festival où tu viens défendre ton deuxième album qui est sorti il y a quelques jours.
Oui.
Ce nouvel album s'appelle Knucklebreaker Max.
Yes.
C'est le nom d'une voiture jouet qu'on te voit sur la pochette enfant en train de déballer d'un paquet cadeau.
Oui.
Pourquoi ce nom ? Est-ce que c'est parce que tu es encore fan de cette voiture ?
Je pense en fait que c'est un album qui est important pour moi parce que j'assume et défends beaucoup mon trouble de l'identité de genre que je traîne depuis longtemps. Puis je pense que c'est une façon d'assumer puis de prouver qu'il était là depuis longtemps. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment plus un petit garçon. Puis je voulais des camions téléguidés. Puis j'avais très hâte de recevoir ce cadeau. Donc je pense que c'est plus comme une image Knucklebreaker Max qui veut dire ça en fait, qui veut dire que ça a toujours été là. Puis des années plus tard, je me suis acheté un Jeep Cherokee 2000. Il a pas tenu longtemps parce qu'il était vieux, mais j'ai poursuivi mon rêve puis je vais le poursuivre encore.
Tu nous disais, quand on s'était vu la dernière fois, que t'aspirais à faire un projet francophone. Yes. Donc là, on a découvert ton nouvel album qui est à nouveau en anglais. Ouais. Alors, est-ce que t'as revu tes projets?
Non, en fait, je pense que c'est difficile pour moi d'écrire en français parce que je réalise à quel point c'est une langue qui est genrée. C'est très difficile pour moi d'écrire par rapport à moi dans cette langue-là. À cause de ça, l'anglais, je pense que c'est une langue qui est vraiment non-genrée. Si je veux dire « I am happy, I'm just happy, I am a singer », j'ai pas besoin de dire que je suis une chanteuse ou un chanteur ou que je suis heureux ou heureuse. Fait que je pense que j'ai pas besoin de passer par quatre chemins, en fait, pour dire ce que je veux dire en anglais. Je veux le faire, ce travail, puis je veux essayer de pousser ma réflexion justement pour écrire des textes en français qui sont le plus proches de moi possible. Évidemment qu'il y a quelque chose en français qui va sortir de mon cru à un moment donné.
À un moment donné. Bon, ceci étant dit, il y a du français sur cet album, mais ce sont que les deux invités qui s'y collent.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler d'eux?
Oui, donc il y a Peipo qui chante sur Nice One Bird et il y a Balthazar que j'ai rencontré aux Inouïs du Printemps de Bourges. Il était là avec un band qui s'appelle 135, ils sont 10 rappeurs. Vraiment, moi c'est un des concerts à Bourges qui m'a frappé, que j'ai le plus aimé. Il était 10 gars sur scène, puis ça a déchaîné là, c'était fou. Donc j'ai demandé à Balthazar de faire cette chanson-là, il a accepté, je trouvais ça vraiment bon. Puis Peipo, dans le fond, Nice One Bird, c'est la première chanson que j'ai travaillée avec Zachary Baudouin, qui est à la prod de l'album. Puis c'était vraiment une prod qui était intense. Puis j'avais envie, après cette prod-là, j'ai fait « Ok, j'ai envie de travailler avec toi le reste de l'album », mais on avait cette chanson-là qui était comme en attente, parce que j'arrivais pas à écrire de couplets pendant des mois. Puis Zachary travaillait dans un restaurant déjeuner. Un restaurant avec des burgers et tout. Puis il m'a dit, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi à mon restaurant. Puis il s'appelle Peipo. Puis il est vraiment bon. Je suis sûr que tu devrais essayer. Puis pendant quand même un bout, j'étais un peu sceptique. Puis finalement, à un moment donné, ben, je voyais que la chanson avançait pas. Fait que j'ai dit, OK, vas-y, envoie-lui la chanson. Et une semaine plus tard, il m'a renvoyé une version. Il était 23h. J'allais me coucher. Puis je l'ai mis dans mon système de son à la maison. Puis j'avais genre des étoiles dans les yeux. Puis j'étais comme, OK, c'est fou. Puis c'est un banger. Puis c'est ça.
Super rencontre.
Ouais, super rencontre.
Le choix de l'anglais, comme tu dis, permet plus d'agilité dans l'utilisation du genre. Mais est-ce que tu observes, toi, dans le français, des usages différents entre le Québec et et la France sur l'utilisation du genre?
Très bonne question. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun projet francophone ni au Québec ni en France qui défendent beaucoup dans leurs textes cette espèce de complexité ou trouble de l'identité de genre. Donc c'est très difficile quand t'as pas d'exemple. Je pense que moi, en anglais aussi, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai grandi sur du rap, j'ai grandi sur du folk, j'ai tellement d'exemples de musique en tête. J'ai des modèles en français. Par rapport à ça, j'ai aucun modèle. Fait que ça rend la tâche difficile. Je sais pas si je vois comme une différence à ce niveau-là du Québec ou de la France. Effectivement, mettons qu'on parle à un niveau plus politique, je pense qu'il y a une plus grande ouverture au Québec par rapport à ça qu'en France. Je dis pas que ça va jamais arriver en France. Je pense que j'ai espoir. Beaucoup de gens que je rencontre, surtout dans l'univers de la musique, justement, sont très ouverts. Puis je pense qu'évidemment qu'à un moment donné, ça va changer. En ce moment, je trouve que le décalage est quand même flagrant. Mais j'ai espoir.
On a espoir aussi.
Et oui.
Et en 2024, je me souviens qu'on avait parlé de Leonard Cohen, mais aussi de rap.
Ouais.
Et on retrouve dans ton nouvel album encore ces influences entre folk et rap. Comment est-ce que toi, tu as pensé l'équilibre entre ces deux esthétiques maintenant que tu refaisais un deuxième album?
Je pense que ce qu'il y a, mettons, de similaire entre Leonard Cohen puis, je sais pas, mettons, Mac Miller, c'est que la voix est tellement en avant de tout. C'est la voix c'est de la musique de texte. Puis pour ça, et Leonard Cohen et énormément de rap, c'est ça. C'est tu focuses sur les textes, puis je pense que moi, c'est de là que vient mon inspiration pour les textes, c'est que je veux mettre le texte de l'avant, qu'on l'entende, qu'on le comprenne. C'est ça la musique que j'écoute dans la vie. J'écoute pas vraiment de musique où le texte est vraiment comme ambiant, puis loin, puis qu'on comprend pas trop ce qu'on dit. J'ai des amis qui me montrent leurs projets musicaux puis qui me demandent mon avis. Puis j'ai tout le temps mets la voix plus dans la face, là. Genre on n'entend rien de ce que tu dis. Fait que je pense que s'il y a une similarité entre Cohen puis du rap, mettons, ben ce serait ça. Puis par rapport à Cohen, ben je dirais les mélodies. Fait que je pense que j'essaie de composer des mélodies qui sont touchantes, comme moi j'ai été touché par cette musique-là. Mais sur cet album-là, surtout, ben, avec des textes qui sont peut-être un peu plus bruts, un peu moins dans la poésie, mais vraiment plus dans comme écrit noir sur blanc, voici ce que je te dis, tu sais.
I take a sip and I leave her. It's always been my way, been my way.
Tu as depuis longtemps une carrière d'actrice,
ouais,
à la télévision et au cinéma au Québec. Ouais. Tu disais au moment de ton premier album que la musique te permettait d'être l'interprète de tes propres textes, de ta propre personne. Mmh. Est-ce que ce pas de côté te réconcilie avec le fait d'incarner à nouveau d'autres personnages?
Ouais, je pense que j'ai pas eu le choix de sortir un peu du milieu du cinéma puis de la télé justement pour prendre soin de ma santé mentale par rapport à l'identité de genre. Je pense que j'étais vraiment tanné d'incarner toujours c'était toujours très compliqué dans les costumes de m'habiller et tout. Donc j'ai fallu que je prenne un peu de recul, puis en ce moment ben je fais de la musique, puis je pense que je vais faire de la musique jusqu'à temps que je trouve un rôle qui me rend pas mal à l'aise en fait. Mais la musique, je pense que c'est vraiment juste moi, c'est mon cœur, c'est moi dans toute son entièreté. Tu sais.
Et tu as eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises maintenant en France, ouais. où le public te connaît moins, ouais. en tant qu'acting, ouais. et tout le travail que tu peux, ouais. faire d'image. 100%. Est-ce que ça change le rapport avec l'audience quand tu fais un concert?
Ouais, je pense que je suis moins stressé parce qu'on me connaît peu, donc il n'y a pas d'attente. Quand tu connais pas la personne, ben tu te fais pas déjà une image. Au Québec, j'ai une image, les gens ils posent des questions, je sais pas. Fait que je suis stressé de jouer au Québec, mais j'ai hâte de jouer devant les amis, la famille, les gens qui me connaissent. Mais donc voilà, je pense que c'est là où est-ce qu'il y a une petite différence. Je pense que c'est le stress puis la détente de jouer devant des gens qui te connaissent pas, t'sais. Comme tomber devant un inconnu ou tomber devant quelqu'un sur qui t'as un crush, c'est pas la même chose.
Et c'est peut-être plus confortable aussi de pas arriver avec ce passif.
Exact. Ouais.
Ton nouvel album est sorti sur deux labels assez, ouais. identifiés. Ouais. Simon Records au Québec et, ouais. Yotanka Records en France. Ouais. Est-ce que ça facilite les choses pour toi? Ça change des choses de sortir cet album avec ce contexte-là?
Ben oui, je pense que c'est juste plus facile de faire de la musique quand tu as une équipe. Surtout, moi, je suis quelqu'un qui fait du cinéma depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Donc, j'ai toujours été pris par la main. J'ai un peu de misère à gérer mes affaires, mon horaire. J'oublie souvent des choses, comme je suis habitué que les gens ils me disent « Va là, mets-toi là », puis fais ça. Fait que je pense que juste ça aide d'avoir une équipe. Si j'ai la chance d'avoir une équipe qui me comprend, qui me connaît, qui ont la même vision que moi, et au Québec et en France. Donc je pense que ça facilite juste la chose parce que j'ai comme une confiance absolue envers eux. T'sais.
Ok, mais merci beaucoup.
Merci à toi.
Max de la radio RCV à Lille continue de célébrer la musique éthiopienne moderne avec cette semaine un focus sur le numéro 31 de la collection Éthiopique en compagnie de Francis Falsetto.
Oh, ነች ቆንጆ ልጅ ከልቤ ገብታ ተቀመጣለች ገና ፍቅር እንዳስታውሳ ታደርገኛለች ያቺ ቆንጆ ልጅ ከልቤ ገብታ ተቀመጣለች ያቺ ቆንጆ ልጅ ከልቤ ገብታ ተቀመጣለች ገና ፍቅር እንዳስታውሳ ታደርገኛለች ያቺ ቆንጆ ልጅ ከልቤ ገብታ ተቀመጣለች የፍቅር ረሃብ ሲያንገላታኝ ዞ የፍቅር ረሃብ ሲያንገላታኝ ዞ የሚሆነኝ ሳጣ ስሜቴ ደንዝዞ የሚሆነኝ ሳጣ ስሜቴ ደንዝዞ የህይወትን ጣዕም ያወቁት በሷ ነው የህይወትን ጣዕም ያወቁት በሷ ነው የመውደድ መዝገቤ ግሩም ውበቷ ነው የመውደድ መዝገቤ ግሩም ውበቷ ነው ኦሆ ግሩም ውበቷ ነው ኦሆ ግሩም ውበቷ ነው
Francis Falsetto, bienvenue sur Radio RCV 99 et sur les radios de la FERA. Vous êtes historien de la musique et directeur artistique de la collection éthiopique sur le label Buddha Music. Permettez-moi de revenir sur la parution du éthiopique numéro 31, celui que vous consacrez à la musique de Moulouken Melesse, qui est accompagné pour la plupart des morceaux par le Dalak Band. Et cet artiste est celui aussi par lequel vous avez ouvert le bal en 97 lorsque vous éditiez le tout premier volume des disques éthiopiques. L'enregistrement avait à l'époque de quoi surprendre puisque le chanteur que vous présentiez était tout jeune. Sa voix était haut perché, quasiment androgyne. Vous avez un attachement particulier à la musique de cet artiste ?
C'est un grand pour moi. Ça a toujours été considéré comme un grand. Établir la parution des éthiopiques sur tous ces volumes, ça requiert un certain ordre. C'est aussi quelquefois dépendant des conjectures, parce que, par exemple, des gens comme Mahmoud Ahmed Alimayou, Moulatou, Getachew Mekuria, il arrivait qu'ils tournaient en Europe, et donc on essayait un petit peu quand même de conjuguer les deux choses, la parution et les concerts. Donc ça a influé un petit peu, mais en même temps c'est une sorte de teaser de faire ça permet je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un tas de fans qui tirent la langue quoi, parce que ils aimeraient bien entendre plus. Et pour moi ce disque est un vrai chef-d'œuvre, c'est aussi ce que je considère le genre du cygne de la musique moderne en Éthiopie, et comme lui-même est sorti très tardivement après le début de la révolution, ça faisait sens de le sortir vraiment à la fin. Vous aurez peut-être remarqué dans ce que j'annonce les deux derniers CD qui sortiront en même temps. C'est un CD de Mahmoud qui reprend le dernier vinyle publié en Éthiopie sur le label même de Mahmoud Ahmed, et la première cassette qui, comme par hasard, a été publiée par Ama Echete, le grand producteur essentiel de cette musique, de cette histoire. Donc, insister sur c'est la fin, quoi, avec l'accent mis un peu sur la chronologie.
Il enregistrait alors en 1976 ce disque qui est aussi rare que culte, produit sur le label d'Ali Tango, le label Kaifa.
Absolument.
Il était introuvable et on est tous heureux de pouvoir désormais prêter une oreille et écouter ce disque qui est vraiment sacrément funky. C'est quelque chose, il y a sa voix d'ange, il y a aussi ces orchestrations qui sont très très éthio-groove, très funk.
Je dois dire que je suis assez content de mettre en valeur le Dalak Band. Il ne fait pas partie, généralement on ne le considère pas comme dans les grands groupes qui ont animé le Swinging Addis, alors que c'est un des tout premiers à mon sens. Et là c'était vraiment l'occasion d'insister sur l'importance de ce groupe, et en particulier de son leader saxophoniste, dont le nom est en train de m'échapper en ce moment, quelle honte. Voilà.
On a l'habitude de parler des trois grandes voix de la scène musicale de cette époque, les Tlaoun Gesese, Alemoyo Echete ou Mahmoud Ahmed. Mais celle de Mouloken Melesse, comme celle d'un Samuel Bele, comment résonne-t-elle dans le cœur des Éthiopiens? Est-ce qu'on arrive à avoir une idée de l'auditoire et puis de la façon dont ça résonne?
Si vous voulez, il est tout à fait clair que Mouloken est arrivé tardivement dans le Soumingadis, si on considère que la révolution a mis un terme à tout ce développement de folie musicalement. Il n'est quand même pas de la même génération que Mahmoud, que Getachew Meguiah, même Tlaoun Gesese. Il est un peu plus jeune. C'était vraiment la relève de des grands noms que je viens de citer. Malheureusement, la révolution a tout écrabouillé. Il s'est échappé dès qu'il a pu, ainsi que un certain nombre de musiciens du Dalak Band, qui, pour l'occasion, l'occasion en question était une tournée aux États-Unis en 81. Oui, un certain nombre d'artistes sont restés sur place. Vous n'avez pas trop l'intention de revenir dans le paradis de Mengistu, le dictateur local.
Les livrets que vous fournissez et qui accompagnent ce disque ont un chic aussi, c'est qu'ils reprennent les paroles des chansons de Mouloken Melesse. Ces textes révèlent une poésie pleine d'amour, de sentiments. Est-ce qu'il y a dans le cœur aussi des Éthiopiens, dans leur façon d'entendre, dans leur double entendre, une façon d'entendre différemment cette langue amarinia? Est-ce qu'il faut déceler des fois des messages?
Bien sûr, c'est un sport national en Éthiopie. Ça existe partout, ça, c'est universel.
Ce n'est pas qu'un lover, quoi.
Oui, mais je ne peux pas dire que ce soit un protestataire politique non plus. Mm-hmm. Il ne faut pas croire, toutes les chansons d'amour ne recouvrent pas nécessairement des protestations politiques. La protest song sous la Révolution, c'était pas très bien vu, quoi. C'était même carrément pas vu du tout, et c'était interdit tacitement, quoi. Donc oui, ce que je souligne un petit peu, c'est qu'il faisait appel singulièrement pas mal à des lyricistes, des auteurs, des autrices, en l'occurrence femmes. Donc chez Waloul Mengistu, une des plus importantes. qui malheureusement a été assassinée, elle, sous le derg, oui. Voilà. Il y a un tas de ces gens qui ont eu du destin un peu tragique ou un petit peu... Et Boulken lui-même a un destin un peu spé, parce que quand il est... Enfin, il était déjà un peu converti au pentecôtisme et arrivé aux États-Unis, ça a été la fin, quoi. Et très vite, il a arrêté. Je veux dire, le pentecôtisme a gagné une telle influence en Éthiopie depuis un demi-siècle, c'est effarant, quoi, de voir jusqu'où ça mène. Et beaucoup, beaucoup d'artistes ont viré pentecôtistes. Et il faut savoir que dans le pentecôtisme, c'est comme chez les musulmans, en particulier ceux d'Afghanistan, la musique est totalement proscrite, quoi, la musique populaire. Tout de même, à part ses disques, il a enregistré quelques cassettes vraiment intéressantes avant de partir d'Éthiopie. Et après, une fois qu'il a eu arrêté, ça a été fini. Il a sorti juste une cassette de musique pentecôtiste. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec Ethiopic 31, et rien à voir avec le reste de la production de Blouken, quoi. Ça m'attriste un peu, personnellement, je dois dire, toutes ces bigoteries qui annihilent des talents absolus, quoi. C'est comme ça. Faut faire avec.
Francis Falsetto, nous rappelons donc la sortie de ce volume 31 de la collection Éthiopique, dédié à Moulouken Mélissé, à sa musique. C'est aussi agrémenté de vos livrets. C'est aussi édité sur le label Buda Music au format CD et disponible au format vinyle chez Heavenly Sweetness. Merci beaucoup, Francis Falsetto.
C'est moi. Au revoir.
Au revoir.
Dingatem hasitom lebe me asbatem ajabi wa basto ala kenye watem dingatem enna lebe me asbeshem takataish basto ala kenye bushem takataish basto ala kenye bushem. Yo fikr tidq ba mawdad wa zema marata tentwok johate yesema tawakaw teradaw ya watin ene jmer lebe hono kartwal kaswagar ya mi Dingatem esito lebe be asbatem ajabi wa besto ara kenye watem Dingatem enyna lebe be asbeshem tekataish besto ara kenye hushem tekataish besto ara kenye hushem. Tale kasem bet merkuz ba ta tesfa eyab kene kene lebebe sa tefa. Dig 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 is.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. À l'instant, dans la carte blanche de la semaine, Max de RCV recevait Francis Falsetto pour présenter le numéro 31 de la collection éthiopique, disponible depuis le 5 décembre 2025 sur le label Bouddha Music. Xavier de la Ferrarock et Bingo de Radio Méga vous présentaient les deux albums découvertes de la semaine. Ever Gonna Heal par Pretty Inside, disponible depuis le 12 décembre via les beaux labels Flippin' Freaks, Alling Banana et les disques du paradis, et à retrouver en vinyle chez tous les bons disquaires et partout sur internet. Quant à Knucklebreaker Max par Goodbye Karel, tout juste disponible depuis le 16 janvier, il est sorti chez Yotanka Records pour la France et Simon Records pour nos voisins québécois. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.